Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi, c'est la dernière de la semaine, alors profitez-en bien. Nous en tout cas on va bien en profiter sur RMC, RMC Story, Canal 23, en compagnie aujourd'hui d'Alfred Orange. Salut Alfred.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Laurent Mandrieux, chef du service culture de Valeurs Actuelles, bonjour Laurent.
Bonjour Estelle.
Il y a Emmanuel Dancourt, bien sûr, journaliste indépendante à Dijon, bonjour Emmanuel.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Et puis notre économiste préféré, on le voit partout en ce moment, mais c'est incroyable, c'est Pierre Rondeau.
Il y a une petite actualité actuellement, ça s'appelle le mondial de football.
Oui, et vous êtes très mobilisés.
Voilà.
Non, mais écoutez, merci de nous avoir gagné une petite place dans Estelle Midi.
Je vous en prie.
Pierre, je suis très honorée de votre présence aujourd'hui, en tout cas. Au sommaire, aujourd'hui dans Estelle Midi, le gouvernement qui envisage de taxer davantage les cigarettes et le tabac à rouler. Bonne ou mauvaise idée? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. Midi et demi, télésiège ralenti, forfait plus cher à cause de la flambée des prix de l'énergie, manque de neige. Faut-il en finir avec les sports d'hiver? À 13h, l'éducation nationale qui demande au recteur d'académie de faire respecter la loi face à l'augmentation des tenues religieuses à l'école. Doit-on vraiment s'inquiéter de cette recrudescence? 13h30, le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, nouvelle chronique dans Estelle Midi, c'est le journal décalé de Paul Lassen qui fait le tour de la presse quotidienne régionale. Et puis à 14h, 67% des Français disent souffrir d'éco-anxiété, une peur liée au changement climatique. L'éco-anxiété est-elle un mal du siècle ou un délire de bobo? On vous attend au 32-16.
RMC Estelle Midi.
Il est midi 6, vous êtes sur RMC et on va démarrer tout de suite avec la taxe du jour. C'est celle que le gouvernement envisage d'instaurer sur les prix du tabac. Concrètement, le prix minimal d'un paquet de cigarettes passerait à 11€ contre 15€ pour le paquet de tabac à rouler, Alfred.
Oui, en fait, tout ça s'inscrit dans les discussions pour les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Le gouvernement projette en fait de déplafonner la hausse de la fiscalité indexée sur l'inflation. Résultat, le prix du paquet de cigarettes pourrait augmenter. Aujourd'hui, compter en moyenne 10,20€, 10,50€ le prix du paquet. À l'avenir, il pourrait augmenter de 70 centimes, dépassant donc la barre symbolique des 11€ le paquet. Le prix du paquet de tabac serait aussi concerné, dépasserait lui les 15€. Il se situe aujourd'hui aux alentours des 14€ pour les 30 grammes. La dernière fois que le prix du paquet de cigarettes a été augmenté, c'était en novembre 2020. Et ça fait débat d'abord au sein même de la majorité présidentielle parce que l'hiver s'annonce déjà tendu avec les hausses prévues du prix du gaz et de l'électricité. Augmenter encore le paquet, c'est s'exposer donc à du mécontentement. Et puis surtout, Estelle, autre réserve, d'après Santé publique France, le nombre de fumeurs ne baisse plus en France depuis 2 ans.
Oui, peut-être que s'il y a des taxes, il finira par baisser. Moi, si vous mettez le paquet de cigarettes à 20€, il y aura de facto moins de fumeurs. Aider. Alors, taxer plus le tabac, bonne ou mauvaise idée, Pierre Rondeau?
Alors, il faut prendre la chose, de deux façons différentes. Premier élément, il est évident que c'est une bonne idée, ne serait-ce que par rapport au coût social qu'est le tabac.
Ben oui.
Il y a une simple étude qui le démontre. Hein, les gains fiscaux liés au tabac, c'est 16 milliards d'euros par an. Mmh. Hein, on paye des taxes, oui. 80% du prix du paquet, c'est des taxes.
Et combien ça coûte à la Sécu?
Et alors, la Sécu, selon pour les soins de santé liés au cancer, on est sur 26 milliards, pardon. On est sur 26 milliards d'euros par an.
Sachant qu'il n'y a pas que le cancer, pour le tabac.
Sachant qu'il n'y a pas que le cancer, effectivement. Et ça a été estimé, le coût total, le coût social du tabac, il est estimé à 120 milliards d'euros par an. Donc on est sur un gain fiscal de 16 milliards, un coût social de 120 milliards d'euros par an. Donc bien évidemment, le tabac, ça coûte cher. Mmh. Et il est faux de croire, et je me mets à la place des fumeurs parce que j'en suis un de façon épisodique, il est faux de croire que parce que je paye, je finance la sécurité sociale, puisque non, je rapporte 16 milliards, je coûte 120 milliards.
Mais toi, en tant que fumeur, par exemple, est-ce que ça te gêne, cette hausse des taxes-là, toi, personnellement?
Ça me gênera bien évidemment, et ça gênera bien évidemment tous les fumeurs, et c'est sûr que ça a un impact d'augmenter les prix. Le problème, c'est qu'en économie, il y a deux choses qui se voient. C'est d'abord une adaptation face au prix. Bon, il va augmenter de 10 centimes, 15 centimes, 30 centimes, passer la barre fatidique des 11€, voire la dépasser. Il y aura un temps d'adaptation et au final, les fumeurs resteront fumeurs. On n'aura pas...
Mais c'est 340€ par mois pour quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour.
On parle de drogue.
Enfin, c'est un quart de SMIC, tu te rends compte.
On parle de dépendance au tabac. C'est une drogue douce, mais une drogue quand même. On est dépendant au tabac et c'est très difficile de s'arrêter, encore plus pour celles et ceux qui fument un paquet, deux paquets par jour. Et le deuxième élément là-dessus qui peut être critiqué pour le cas franco-français, c'est toutes les frontières. frontières. Et beaucoup de gens à côté des frontières, vu que c'est pas un prix européen mais un prix français, iraient en Belgique, au Luxembourg, en Andorre, et n'iraient pas consommer français.
Faut pas habiter à Limoges.
Ce serait préjudiciable.
Et... T'es fumeur à Limoges.
Oui, mais au-delà de ça, le trafic aussi. Parce qu'il y a Paris. On n'est pas proche des frontières. Vous allez à Barbès, il y a beaucoup de tabac pour 5 euros. Donc le problème, c'est l'augmentation.
Donc pas
que
le meilleur tabac, je pense.
C'est du tabac importé, mais en tout cas, je sais pas, j'ai pas essayé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le risque à faire que la taxe et pas le contrôle derrière, c'est qu'on ait une augmentation du trafic.
Est-ce que finalement, ça va devenir un loisir de riche de fumer, Emmanuel Dancourt?
Ah bah c'est pour ça que je fume pas, d'accord, j'avais pas compris. Alors d'abord, voilà, celle qui vous parle ne fume pas, donc ça donne quand même le prisme que j'ai sur cette affaire-là. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt les chiffres que tu donnais, Pierre, et moi il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est que quand le paquet de tabac est passé à 10 euros, j'ai plein d'amis qui ont arrêté de fumer, mais qui en ont profité pour arrêter de fumer. C'est-à-dire que c'était déjà des gens qui allaient vers ça et qui se sont appuyés sur ça en disant « Bon là, je ne vais plus pouvoir, ça va devenir cher et ça va être une motivation supplémentaire pour arrêter de fumer. »
Parce que c'est symbolique, 10 euros.
Je pense que c'est pas pour rien que tu as dit 20 euros tout à l'heure. Et je pense que ces gens-là étaient prêts à arrêter de fumer et ont profité de ça pour gagner du budget et arrêter de fumer. Je me demande s'il y a des chiffres qui nous montrent à partir de quel tarif de paquet de tabac, même ceux qui veulent vraiment pas arrêter de fumer parce qu'ils sont addicts, comme tu nous le disais, arrête vraiment. Et ça m'intéresserait de savoir. Après, ce qui est intéressant dans cette augmentation, si on dézoome du côté santé publique, et qui est quand même un aspect très important, dis-moi si je me trompe, Pierre, mais ça va nous permettre de financer notre déficit public aussi.
Ah bah, évidemment,
la capacité d'endettement de la France, elle est quand même ricrac.
Si tu mets 20 euros, ça va dégager un excédent.
Une baisse de la croissance, l'inflation, les taux d'intérêt qui augmentent, on est un petit peu...
Mais après, c'est tout le paradoxe. J'imagine aussi, c'est pour ça que certains députés de la majorité sont... dubitatif à la mesure, c'est que consommer du tabac, ça rapporte de l'argent à l'État.
Oui, bah oui.
Et donc augmenter les prix
comme
pour tenter...
Comme l'essence.
On est d'accord. Ouais. Donc augmenter les prix pour tenter de réduire la consommation, c'est prendre le risque qu'on n'ait plus de recettes publiques. Au contraire, peut-être qu'au fond...
Oui, mais comme tu gagneras au niveau de la Sécu, finalement, ce sera kiff-kiff.
Il y aura une baisse fiscale.
Oui, sauf que là, ce qui se passe, c'est que ça n'est pas une hausse, si j'ai bien compris, qui serait décidée pour des raisons de santé publique. C'est une hausse qui est proposée par Bercy pour des raisons purement budgétaires et pour remplir les caisses de l'État. Et donc, ça me paraît
quand
même
problématique. Ça va rentrer dans la loi de sécurité sociale quand même.
Non, mais je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression, avec cette idée, que l'État profite de l'effet d'aubaine créé par l'inflation pour se remplir les caisses.
Et ça vous gêne ?
Bah oui, c'est compliqué de dire à la fois aux gens...
C'est pour un produit nocif.
Oui, mais alors, j'ai un peu de mal avec ça, parce que si on dit c'est une drogue...
Attends.
Ben, non, mais je dis, si on dit c'est une drogue, il faut l'interdire. Il y a un moment que l'État se fasse du blé avec... parce que je valide
aussi,
pas le mot de drogue.
Dans le sens où on devient addict, quand je parle de drogue, c'est qu'on devient addict. On met
une dépendance. Je peux être addict à l'alcool, je peux être addict au sucre, je peux être addict au jeu.
C'est ça qui est une nuance à apporter dans l'interdiction, parce que la drogue, par exemple, vous savez, dans certains pays, le cannabis, c'est légal. Donc c'est au niveau de la définition de la légalité.
Mais en tout cas, il me paraît difficile en termes de communication politique de dire à la fois on fait tout pour contenir les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Français et puis tout à coup, là, il y a un effet d'aubaine parce que comme il y a de l'inflation, ça va nous permettre de gagner plus d'argent sur le tabac. Donc allons-y, youpi. Je trouve ça limite.
Alors peut-être que Philippe Coy ira dans votre sens, c'est notre invité sur ce débat. Il est président de la Confédération des buralistes. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et bonjour. Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. J'imagine que ça vous fait pas plaisir, cette hausse des taxes éventuelles envisagées par le gouvernement.
Alors d'abord, vous faites bien de le dire éventuel. Je rassure tout le monde, pour le moment, il n'y a rien de tranché. Et l'importance du débat, c'est aujourd'hui de regarder où on en est exactement, sachant que ça fait pratiquement 15 ans que l'outil fiscal est utilisé et que malheureusement, ce qu'on en a observé, c'était une part croissante du marché parallèle. Donc aujourd'hui, je ne suis pas satisfait, je ne vous cache pas mon ressenti.
Mais ça va vraiment être différent pour vous. Je veux dire, un paquet à 10 euros et un paquet à 11 euros, vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui vont se détourner du tabac parce qu'il y a un euro supplémentaire ?
Ben écoutez, je crois que le pouvoir d'achat, tout le monde en est bien conscient aujourd'hui, c'est une difficulté. Bien et sûr. Au-delà du... Allez, 11 euros, mais que toute l'Europe soit à 11 euros, c'est ça le sujet. C'est pas est-ce que 11 euros est un sujet en soi, c'est est-ce que toute l'Europe est au même prix. Je suis désolé, moi je suis buraliste dans les Pyrénées-Atlantiques, à 45 minutes de la frontière espagnole, le paquet le plus vendu c'est 5 euros. Donc c'est ça, y a-t-il un objectif de santé publique ? Il peut y avoir des contraintes fiscales, on peut les comprendre, mais aujourd'hui ne déséquilibrons pas un marché qui est fragile. Le marché parallèle a pris... pratiquement 100% de progression ces derniers mois, bien notamment sûr, avec le confinement. Je rappelle le démantèlement, pas plus tard que samedi dernier en région parisienne, d'une usine clandestine, 28 machines destinées à fabriquer du produit de contrefaçon. Donc je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas précipiter une nouvelle trajectoire fiscale, un nouvel outil fiscal qui serait de nature à pousser les plus précaires à l'achat illicite hors réseau légal que représente le réseau des buralistes. Et je rappelle que les 23 500 buralistes sont bien évidemment sous le monopole de l'État pour la distribution de ce tabac, mais sont aussi des acteurs de l'aménagement du territoire, du service au public. Et si on fragilise à nouveau...
Vendre des cigarettes, c'est pas vraiment un service.
Si vous venez me rendre visite dans mon établissement, vous verrez que je suis bien évidemment un buraliste et j'en suis très fier. Je ne renie pas ce métier. Et vous l'avez dit tout à l'heure dans les propos, est-ce que c'est nocif ou pas? C'est un produit légal, je suis désolé de le rappeler, qui est vendu sous le contrôle de l'État et fume celui qui veut. Celui qui veut pas ne fume pas.
On est d'accord.
Aujourd'hui, nous avons poussé des consommateurs à s'approvisionner de façon illégale sur le marché secondaire, à la sortie du métro, sur Internet. Tout cela est illégal et je voudrais pas que ça devienne demain un usage dans la consommation du tabac.
Vous voulez
je pensais, il a complètement raison, ce monsieur, et Pierre aussi avait raison. Quand, si on fait tout ça, mais qu'on contrôle pas nos frontières, c'est peine perdue. Alors, ça m'a fait rire quand t'as parlé de Limoges.
Les frontières, c'est les sorties des bouches de métro, par exemple.
Non, mais il y a aussi les frontières, mais ça m'a fait marrer quand t'as parlé de Limoges, parce que je me disais à Dijon aussi, sauf que la frontière la plus proche chez nous, c'est l'Allemagne et la Suisse, et c'est marrant parce que c'est pas là qu'on va pour acheter des cigarettes. Mais ceux qui sont près de la Belgique et de l'Espagne.
Combien en Suisse, le paquet?
Je saurais pas dire. Tiens, c'est une bonne question. Je me renseignerai. Mais
Très cher, je pense.
Je pense qu'il est très cher, mais tout est très cher.
Il est moins cher qu'en France.
Ah, sérieux?
Bah oui, la France est.
Qui reste le pays européen continental où le prix du tabac est le plus élevé. Sinon, il y a l'Irlande, mais ça reste une île.
C'est plus compliqué.
Dans le sens de votre débat, le problème du marché parallèle, je l'ai connu en 2003 en tant que frontalier. Mais aujourd'hui, c'est toute la France parce que nous avons franchi un échelon avec le trafic transfrontalier qu'on dénonçait il y a quelques années, mais qui est aujourd'hui la criminalité organisée. Il y a quelque temps, à Rennes, c'est pas frontalier, démantèlement d'un circuit d'Europe de l'Est qui alimentait toute la région Bretagne avec des produits de contrefaçon. Et si vous avez 5 minutes, je vous invite à regarder le rapport du parlementaire Éric Woerth, que chacun connaît, qui a été président de la commission des finances, qui a mobilisé avec un groupe parlementaire un audit après la période de confinement que nous avons connue en mars et avril 2020. Bizarrement, il estime dans ce rapport la perte liée au marché parallèle à plus de 3 milliards d'euros de recettes fiscales. Bizarrement, vous avez des départements comme le mien, les Pyrénées-Atlantiques, 45% d'augmentation de volume du tabac. Allez en Ariège, 70%. Allez dans le Grand Nord, 45%. Allez dans les Côtes d'Armor, 22%. Ce n'est pas lié à une déprime des Français, c'est lié surtout à la capacité de s'approvisionner sur des réseaux secondaires. Et là où je dis attention à toute projection fiscale qui serait déstabilisatrice, c'est pour tout simplement ne pas accentuer ce que nous observons, qui était anecdotique il y a 20 ans, qui est une réalité aujourd'hui.
Bien sûr.
Réalité qui corrompt la santé publique, que l'on veut accompagner d'ailleurs les buralistes à travers toute l'évolution des produits de nouvelle génération et notamment le vapotage.
Oui, puis c'est du tabac non contrôlé en plus.
Si vous achetez du tabac dans la rue, vous n'en connaissez pas la teneur de la fabrication et vous favorisez la consommation plus massive parce qu'elle est moins chère et surtout irresponsable en finançant des organisations mafieuses.
Merci Philippe Coy en tout cas d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Il y a beaucoup de fumeurs qui nous appellent sur ce sujet. Je suis pas sûr qu'ils soient très contents de cette augmentation éventuelle. On va commencer avec Philippe qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour.
Et Philippe, vous êtes fumeur.
Alors, je suis fumeur. Écoutez, je viens d'écouter M. Coy, que je connais très bien, puisque je travaille dans l'industrie du tabac également. Je travaille pour le groupe Logista, qui distribue la cigarette sur le territoire national. Mm-hmm. Donc, et je vais être court, parce qu'en fait, il a tout résumé, M. Coy. Mais vraiment, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter.
Vous, Philippe, ça vous coûte combien le tabac par mois?
Moi, je suis fumeur d'un paquet de cigarettes par jour en moyenne. Donc,
ouais, donc 330, entre 300 et 340, ouais.
Ouais, vous avez fait le calcul tout à l'heure.
C'est énorme.
C'est énorme. Alors après, bon, j'ai la chance de gagner extrêmement bien ma vie, donc ça me gêne un peu moins.
Ça lisse.
Mais bon, je voulais juste rajouter une petite chose quand même importante. moi qui travaille dans l'univers du tabac, donc qui suis lié vraiment aux buralistes, dont Monsieur Coy et d'autres, quand il y a eu la, quand il y a eu le Covid et la fermeture des frontières, et Monsieur Coy l'expliquait, on a eu un retour des fumeurs en France qui était de l'ordre de 20 à 30%. Et nous, on le sait, parce qu'on a les chiffres en termes de distributeurs, on a les chiffres exacts. Le problème de l'augmentation du tabac aujourd'hui, si effectivement on met une augmentation sur le tabac, il faut savoir également, pardon, j'allais oublier ça, il faut savoir que le 27 mai dernier, l'Espagne a voté la hausse du, enfin, l'augmentation du paquet de cigarettes en Espagne pour arriver à normalement à 10 euros dans les 5 ans à venir.
Ben ça, c'est bien ça.
Mais 6 euros, 11 euros en France. Hein.
Voilà, c'est bien. Ce qui sous-entend, sur du prévisionnel chez nous, quand le paquet de cigarettes en Espagne va atteindre les 7 euros ou 7,50 euros, bah, il va être très compliqué pour les fumeurs d'aller en Espagne acheter un paquet de cigarettes, parce que entre le coût de l'essence, le prix du paquet,
moins rentable.
C'est moins rentable. Donc il est fort probable que ces gens-là reprennent le marché français et revendent sur le marché français. Voilà. Maintenant, une augmentation, enfin, je trouve sincèrement que c'est de la pure hypocrisie d'aller augmenter le paquet sous couvert effectivement d'un problème de santé. Complètement.
Oui, mais enfin, si ça pousse, je veux dire, quelques jeunes, ne serait-ce que quelques jeunes, à ne pas fumer parce que typiquement, bah, ils ont pas l'euro supplémentaire. Enfin, moi, je suis pas fumeuse, hein, Philippe, mais je me dis que c'est pas forcément une mauvaise idée. Alors, bien sûr que peut-être que c'est hypocrite et que l'État devrait peut-être dire, bah oui, c'est pour faire rentrer l'argent dans les caisses plutôt que de dire c'est pour la santé publique.
C'est évident.
Oui, mais si ça permet, je vous dis encore une fois, à des jeunes de moins fumer, est-ce que c'est une mauvaise chose? Voilà, c'est l'éternel débat entre les fumeurs et les non-fumeurs.
Très rapidement sur les jeunes, il est avéré que l'augmentation du prix ne va pas ralentir ou freiner la consommation des fumeurs, mais éviter l'entrée de nouveaux fumeurs.
C'est ce que je dis.
Voilà, donc justement vis-à-vis des jeunes, à 11 euros le paquet, ça m'étonnerait que les jeunes précaires, notamment étudiants, aient les moyens de se payer un paquet de tabac tous les jours.
Ouais, mais eux ils iront sur des cigarettes de
contrebande.
De contrebande, et ça c'est vraiment malheureux. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. Mohamed qui nous appelle du Finistère. Bonjour Mohamed.
Bonjour tout le monde, bonjour Estelle.
Bonjour.
Il fait quel temps dans le Finistère?
Ah ben, jusqu'à présent, on avait encore des questions de canicule, mais là, aujourd'hui, on a eu de la flotte en pagaille.
Ça m'étonne.
Donc, c'est un petit peu calmé, mais bon, c'est bien, hein, c'est on retrouve le naturel chez nous.
Ah oui, c'est ça, et puis une ou deux fois dans la journée, ça ne peut pas faire de mal. Mohamed, vous étiez un très très gros fumeur. Hein.
Moi, j'étais à 2 paquets par jour, ça me faisait par an 6 480 euros.
Oula. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est à peu près 600 euros par mois, oui.
540 euros par mois à peu près là, et donc j'ai pris une moyenne, c'était 6 480 euros par année.
Ah oui.
Donc j'ai fait une détresse respiratoire en 2017, donc une BPCO, et donc ben de là j'ai dû me faire retraiter, hein, donc j'ai un traitement à vie maintenant. Après recul, je me dis que j'ai payé pour en fin de compte mourir. Je me suis acheté un produit pour mourir.
Là avec ce que vous avez, on est d'accord, vous avez totalement stoppé la cigarette.
Bah, j'ai fait une détresse respiratoire, donc j'ai dû me faire soigner. Donc j'ai pris après les traitements là qu'on proposait, les patchs et tout là. Donc plutôt que de respecter l'ordonnance du toubib, j'ai pris un patch et demi.
Ah oui,
parce qu'il demandait de mettre un patch par jour. Donc moi j'ai dit, je vais en prendre un et demi, ça ira beaucoup plus vite. Et donc j'étais à 30, plus de 32 mg de nicotine. Et j'ai tenu ça pendant 2 mois.
D'accord.
Et au bout de 2 mois, j'ai oublié de me prendre le patch en allant au boulot. Et au final, le soir, quand je suis rentré, je me suis parti, j'en avais pas pris. Et j'ai arrêté comme ça.
Bravo. Ah
bah c'est super, vous avez arrêté depuis quand alors, Mohamed?
Bravo.
2017.
Ah bah super, bah voilà, ça fait 5 ans, c'est chouette. Et vous, Mohamed, en tant qu'ancien fumeur, justement, et vous avez vraiment beaucoup souffert de la cigarette, est-ce que vous trouvez que cette hausse, elle est nécessaire finalement?
Moi, ancien fumeur, c'est vrai que je peux être dans la critique, mais je trouve que c'est scandaleux l'augmentation de 10 centimes.
Ah! Bah vous voulez augmenter combien
de 10 euros?
Ah oui, donc vous voulez aller à 20 euros alors?
20 euros le paquet, ça va calmer.
Oui, mais il a raison.
Ils vont se rendre compte qu'effectivement, c'est leur santé qu'ils vont privilégier, quoi.
Mais vous, Mohamed, quand vous étiez un énorme fumeur, donc vous dites, ça vous a coûté quand même 6 400 euros par an, ce qui est quand même un énorme budget. Si le paquet avait été à 20 euros, vous auriez arrêté de vous-même?
Je pense que oui, j'aurais déjà diminué la consommation, mais de plus en plus. Mais j'aurais pris tous les traitements possibles et imaginables pour arrêter.
D'accord, parce que là, l'argent vous aurez freiné. Ben ça, c'est effectivement
intéressant. C'est clair.
Ben merci beaucoup.
Pas la crise.
Oui, c'est sûr que si vous passez en plus de 6 400 à 12 008 en budget annuel, il y a un moment où faut s'arrêter. Quoi.
C'est ce qu'a fait par exemple l'Australie qui a l'ambition d'être le premier pays zéro fumeur. C'est simple, ils sont passés.
La Nouvelle-Zélande.
Et l'Australie, les deux. Ouais. Ils sont passés d'un coup, mais vous me direz, c'est des îles. Ils sont passés d'un coup de 10 $ à 20 $. là-dessus, pas de cadeau, 20 dollars cash.
Mais c'est maîtrisable. Et alors, et ça a vraiment fait baisser?
Bah, ça a fait baisser, mais c'est une île en plus d'Australie. Mmh. C'est facile de contrôler le trafic.
Évidemment. Merci Mohamed, en tout cas, d'avoir été avec nous. Anne-Sophie, qui nous appelle du Gers. Bonjour Anne-Sophie.
Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde.
Je suis bonjour.
Bonjour. Sur un sujet beaucoup plus léger.
Oui.
C'était sur le célibat. Donc, ça n'a rien à voir.
Léger, est-ce que vous êtes célibataire fumeuse?
Alors, je suis célibataire et fumeuse. Mais ça n'explique pas. Non, non, ça n'a rien à voir.
Je sais.
Mon futur mari devrait être fumeur ou pas. Non, je plaisante. ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis hallucinée par ce que j'entends. Je suis une fumeuse depuis l'âge de 15 ans. Ouais. C'est une addiction. Et on ne va pas se mentir. Moi, je sais que la cigarette, hein, on peut m'augmenter le prix tant qu'on veut. Je vais peut-être restreindre certaines choses pour arriver à fumer. Le débat de me dire qu'on va m'augmenter le paquet pour que je m'auto-soigne éventuellement psychologiquement, non mais c'est n'importe quoi. Je décide de fumer de mon propre chef, et c'est pas une augmentation du tarif du tabac qui va me motiver. Au contraire, je suis rebelle, je vais faire encore plus fumer.
Oui, mais alors, si ça passe à 20 euros, Anne-Sophie, vous faites comment? 12 000 euros par an, hein.
Actuellement, j'ai essayé, hein, j'ai fait le mois sans tabac. J'ai entendu le monsieur à côté. Alors, moi, par contre, on m'a donné des nicorettes surestimées en termes de milligrammes. Enfin, j'ai été malade comme un chien. Je me suis dit, tu arrêtes tout, tu reprends ta cigarette. J'ai tout essayé, le vapotage, la nicorette, tout. Bon, mais plus sérieusement, je pense que c'est une addiction. On ne peut pas mettre une pression sur quelqu'un qui est dans une addiction. Et c'est pas l'addiction de l'argent qui va faire que la personne va s'arrêter de fumer. Ça n'a pas de sens, en fait.
Non, mais il faut peut-être mettre le doigt sur cette addiction, justement.
Mais l'addiction, je la connais, parce que j'ai même, dans le mois sans tabac, on est très suivi. Par contre, je conseille aux gens qui sont motivés de le faire, parce qu'on a un psychologue qui vous appelle tous les jours, qui vous suit pour voir comment vous sentez et compagnie. Donc, c'est très bien. Pour les gens qui sont motivés, bon, moi, j'étais apparemment pas trop motivée. ça n'a pas fonctionné. Mais faut pas se mentir, c'est aussi un leurre financier. Faut arrêter. Oui. Après, j'entends parler de la sécurité sociale. Certes, je comprends. Toute maladie coûte de l'argent.
Oui,
moi, je paye une mutuelle.
Oui. Mais,
quand je fais une simulation sur, je fais tant d'hospitalisation, c'est ma mutuelle qui paye. C'est pas la sécurité sociale qui paye.
C'est aussi un problème de santé publique et pas juste sur, le cancer du poumon.
On va pas m'enlever ça.
On vous l'enlève pas, mais ça vous coûtera plus cher, c'est tout.
Ah mais oui, mais ça va me coûter plus cher. Mais comme j'aime bien manger du foie gras, ça coûte cher aussi. Moi j'ai tous les symptômes.
C'est moins addictif. Ça coûte moins cher à la sécu, le foie gras. Mais en tout cas, merci Anne-Sophie, ça m'a fait plaisir de vous entendre à nouveau. Oui. Rappelez-nous pour d'autres addictions. Écoutez. Écoutez, tant mieux Anne-Sophie. Et puis bon week-end à vous. Vous avez beaucoup de messages, Alfred.
Oui, ça réagit, ça n'arrête pas de réagir. Je vous en lis deux. Le premier de Marlène, l'augmentation ne fera rien. Parfois, notre vie est tellement pleine de problèmes que c'est la seule chose qui nous aide. C'est triste, mais c'est ainsi. Et puis, un message plus léger de Pierre, qui lui prône un peu le Made in France. Il dit, interdisons le tabac. Les Américains se sont gavés sur notre dos. Légalisons le cannabis que nous savons produire. Voilà, plus léger.
Voilà, produisons du tabac. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Taxe éventuelle sur le tabac. Doit-on continuer à pénaliser les fumeurs?
Résultat très serré, vous dites oui à 54%, non à 46%, comme quoi le sujet divise toujours autant.
Mais ça veut dire qu'il y a plus de non-fumeurs que de fumeurs qui nous regardent et qui nous écoutent. Dans un instant, Mathieu, on va parler des vacances d'hiver et des stations de ski menacées à cause de la flambée des prix de l'énergie et pourquoi pas du manque de neige. Est-ce que c'est la fin des sports d'hiver? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story, canal 23. On est dans Estelle Midi et on est ensemble jusqu'à 15h avec Alfred Oranche, Laurent Dandrieux, Emmanuel Dancourt et Pierre Rondeau. Et on va s'intéresser tout de suite à la crainte du jour. Et cette crainte, elle concerne les stations de ski cet hiver à cause de la flambée des prix de l'énergie. Les télésièges vont avancer au ralenti, les tarifs des forfaits vont augmenter. Ajoutez à cela un éventuel manque de neige et on se dit qu'à terme, eh bien, les sports d'hiver risquent bien de disparaître, Alfred.
Oui, parce que ces stations sont très gourmandes en énergie. téléskis, télésièges, canons à neige. Dans certaines stations, les charges vont être multipliées par 10. Un exemple, à l'Alpe d'Huez, la facture va passer de 2 millions d'euros par an à 20 millions d'euros rien que cette année. Alors pour absorber ces coûts, les stations se plient en quatre pour économiser de l'énergie. La vitesse des télésièges pourrait notamment être réduite. Elles réfléchissent aussi à optimiser les infrastructures. Par exemple, si un téléski et un télésiège desservent une même piste, l'idée c'est d'enfermer un des deux. Mais ça ne sera pas suffisant pour absorber la hausse des coûts dans la station des Aravis et dans les Alpes. Le forfait journée passe de 43,5 euros à 47 euros. Augmentation nette de 3,5 euros. Partout dans les stations, les forfaits journée vont augmenter entre 2 et 5 euros d'après l'Assemblée Générale des Maires de Stations de Montagne qui s'est tenue en milieu de semaine. La question, Estelle, c'est de savoir si ça aura des conséquences sur l'affluence.
Et est-ce que c'est la fin des sports d'hiver? C'est la question que nous vous posons parce qu'effectivement, on se dit que là, ça commence à sortir un petit peu mauvais pour les stations de ski, Emmanuel Dancourt.
C'est une sacrée question. Moi, je pense qu'à terme, oui, à terme, pas maintenant, mais à terme, ce sera forcément un moment où on sera obligé d'arrêter. C'est compliqué parce que ça, c'est quand même tout un engagement économique. Il y a des enjeux individuels aussi. Et pourtant, et puis nous, enfin dans la famille, on est ski tous les ans, quoi. Alors là, on va économiser parce qu'on a décidé de ne plus y aller. Et pourquoi on a décidé de ne plus y aller? Parce que je vais vous raconter un tout petit peu ma vie, mais de petites anecdotes rapides. On a l'habitude. On était en vacances il y a 2 ans, donc en mode famille, avec les enfants et tout ça, à Saint-Martin-de-Belleville. Et puis il y a eu un problème de remontée. Il y a eu une journée sans remontée. Oui. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer les pots de phoque, là, les raquettes, machin. Ouais. Et ben voilà, donc tu montes une bonne partie de la journée, tu vas faire qu'une seule descente. Et ben les enfants, ils ne parlent que de ce moment-là. Tous les autres jours, ils ont skié, on a des snowboarders, des surfeurs et tout ça. Ils n'ont parlé que de cette journée-là. Et au nouvel an dernier, on est parti en vacances, alors pas à Courchevel, parce qu'on n'a pas les moyens, mais juste en face, il y a un tout petit village où il n'y a pas de remontée mécanique, il n'y a pas de ski, il n'y a rien du tout. On s'est fait une semaine de balade, de raquettes, de ski de fond, de promenade. Ça a été les meilleures vacances de ma vie et ça m'a coûté peanuts. Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen de redécouvrir la montagne autrement. Ce n'est pas la fin de la montagne.
Enfin, encore faudrait-il qu'il y ait de la neige. C'est... Parce que non, la peau de phoque sur herbe, ça ne marche pas. Non,
mais je... One point.
Tout tu à fais
fait. Tout à fait. Mais toi, pour des fanatiques de ski, on se dit, bah, va falloir qu'on fasse notre transition, nous aussi, et qu'à terme, on n'aura pas le choix, de toute façon.
Laurent Dandrieu, est-ce que les stations de ski vont devoir obligatoirement s'adapter? Parce qu'à un moment, déjà, il y a quand même peu de Français qui skient, je crois que c'est 8%. Là, ça va vraiment devenir cher, un truc d'ultra riche, quoi.
Oui, alors après, je pense que justement, les 8%, c'est pas non plus les plus défavorisés à la base. Donc, déjà, c'est des gens qui sont peut-être moins impactés par les augmentations de tarifs, des forfaits et tout ça. Après, je pense qu'évidemment, bien sûr, les stations de ski vont devoir s'adapter. Je pense qu'elles ont quand même... je suis pas très familier des stations de ski, moi j'y vais assez rarement, mais je pense qu'elles ont des marges de progression en termes de lutte contre le gaspillage d'énergie qui sont quand même assez importantes, parce qu'on n'a pas l'impression que c'était vraiment un sujet pour la plupart des stations de ski jusqu'à présent. Donc je pense qu'il y a déjà effectivement un terreau, un vivier d'économie assez important. Et puis effectivement il y a probablement une autre manière, comme Emmanuel le disait très bien, de plus moins dispendieuse et plus économique en ressources, de profiter de la montagne l'hiver. Donc moi je suis pas très inquiet, je pense que les domaines skiables vont s'adapter et elles vont d'autant plus...
Ça va dépendre
plus
du réchauffement climatique.
Oui, alors évidemment, il y a cette dimension-là. Mais elles vont d'autant plus s'adapter qu'il y a quand même des enjeux économiques importants derrière. C'est quand même un secteur qui génère de l'emploi pour 120 000 personnes à peu près. Donc, c'est quand même énorme. Donc, il va bien falloir s'adapter, oui.
Pierre, je vous donne la parole dans un instant. Mais avant ça, je voudrais qu'on prenne Guillaume, qui nous appelle de La Plagne, justement, en Savoie, et qui est moniteur de ski depuis 25 ans. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bonjour.
Guillaume, est-ce que vous êtes inquiet pour les stations de ski, justement, alors à cause de la flambée des prix de l'énergie aussi, mais puis à cause du manque de neige, est-ce que vous vous dites, dans 20 ans, mon métier n'existera peut-être plus?
Bah là, il y a deux questions. Si vous me posez la question pour cet hiver, je ne suis pas inquiet du tout.
Non, c'est pas non.
Dans 20 ans, on en reparlera. Après, le réchauffement climatique, ça fait quand même un petit moment que tout le monde le constate, et nous les premiers, puisque les glaciers fondent, on les voit. Maintenant, on a toujours de la neige, et puis même si on n'en a pas assez, on arrive à en fabriquer. Alors, bien sûr, ça fait toujours la question écologique, mais bon, nous, on ne vole pas d'eau. Oui. On ne la vole pas des sols. Elle tombe du ciel, et on fait des lacs pour ça. On fait des lacs pour ça, on les retient et puis on utilise ce qu'on a besoin. Et c'est quand même très, très cadré tout ça. Donc, oui, bien sûr que on peut être inquiet pendant 20 ans, ça c'est certain. Maintenant, je suis pas vraiment inquiet là pour les années à venir. Là, après la crise de l'énergie, c'est pas. Enfin, faut faire attention à ce qu'on dit là. C'est quand même pas le problème majeur. Nous, on est dans des grosses stations de ski comme à La Plagne qui sont gérées publiquement, avec des délégations de services publics, avec des grosses compagnies comme la Compagnie des Alpes. Donc les forfaits sont plafonnés. Donc, dès que c'est la délégation sur le service public, les forfaits sont plafonnés. Mmh. Et puis, il ne faut pas oublier que la Compagnie des Alpes, bah, il y a la moitié des investisseurs, c'est quand même la Caisse des dépôts, donc l'État. Donc, on sera toujours un peu à l'abri par rapport à l'augmentation des forfaits. Bien sûr, il y aura peut-être une petite augmentation. Après, là, j'écoutais un petit peu à votre intervenant. On dit oui, certes, il y a 8% des vacanciers français qui viennent, qui profitent du ski, et qui sont tous, on a l'impression que c'est tous des lentilles, en fait, des gens qui vraiment.
Ah bah, c'est pas des pauvres, ça c'est sûr. Moyens. Quand vous êtes au SMIC, vous pouvez pas aller au ski, hein, c'est impossible. Enfin.
Alors, moi, je vais remettre un peu l'église au milieu du village. Ben allez-y. J'ai l'impression qu'on voit toujours l'image qu'on nous passe sur la télé, avec des reportages sur Courchevel et Megève. On n'est pas tous à Courchevel et à Megève. Il y a 250 stations de ski en France. Et vous en avez pour tous les goûts. Vous allez faire un tour autour de l'Isère. C'est des smicards, hein, je suis désolé, qui vont au ski. Autour de Grenoble, les petites stations de ski qu'il y a, les Sept-Lots, etc. C'est des petites stations de ski qui marchaient. Et vraiment le week-end, vous allez sur Chambéry, etc. Et vous avez des. Il y en avait pour tous les tarifs. Vous pouvez payer.
Ouais, mais là, je parle des vacances. Là, je parle des vacances de ski. Aujourd'hui, Guillaume, vous voulez partir au ski à Noël, mais c'est un truc de fou.
Les smicards.
Même la location de matériel.
Les smicards, c'est des locaux qui vont juste pour la journée.
Voilà.
Non
mais franchement, vacances de Noël au ski, c'est un truc. Mais vous regardez le tarif, vous dites, mais je pourrais aller à l'autre bout du monde pour le même prix, quoi.
Je vais vous dire, les vacances de Noël et les vacances de.
Ah, Guillaume.
Oui, c'est cher. Oui. Par contre.
C'est horriblement cher.
Oui, et quand vous avez passé les vacances au mois d'août sur la Côte d'Azur.
Non, on n'est pas en train d'opposer tel type de vacances.
C'est moins cher. Alors, je suis désolée, c'est moins cher la Côte d'Azur en août que le ski à Noël. Non, mais après, c'est pas une histoire de ça. Mais c'est vrai, Guillaume, que en vrai, c'est quand même aujourd'hui des gens. Je parle de vacances, pas de week-end. Évidemment, si vous habitez à Grenoble, bon, c'est plus simple d'aller en week-end. Vous avez votre propre matériel, donc c'est plus simple. Mais aujourd'hui, aller au ski pendant les vacances scolaires, c'est extrêmement onéreux et tout le monde ne peut pas se le permettre. Et là, encore pire, parce que de toute façon, les forfaits sont plafonnés. Certes, mais vous allez avoir dans les hôtels, eh ben l'électricité.
Et l'impact de l'inflation.
Va falloir le payer, va falloir la payer, l'électricité, c'est sûr.
En plus, Guillaume, on n'est pas en train de caricaturer.
Je n'attends pas les 8%. Si on attendait, nous, dans nos stations de ski, les 8% de Français qui viennent dans nos montagnes pour dépenser leur argent, on aurait fait faillite depuis belle lurette.
Ah oui, mais c'est sûr.
Il y a 10 millions de touristes par an.
Oui.
Alors, Guillaume, on vous entend très mal, donc il va falloir parler à côté de votre combiné.
On est surtout pas, Guillaume, pas du tout, à aucun moment. D'ailleurs, j'en ai l'impression sur le plateau, on a caricaturé le ski comme étant un sport de nantis. On a juste constaté que, ça c'est un élément qui est sourcé, chiffré, étayé. Il y a 8% des Français qui se déplacent au sport d'hiver, donc là-dessus, vous ne pouvez pas le remettre en cause. Et on n'est pas en train de dire que.
Après, t'as une capacité maximale aussi.
Il y a aussi.
Tu peux pas dormir à la Belle Étoile si t'as pas de logement.
Évidemment, mais il y a aussi 8% de Français et du tourisme international qui vient en France et qui se déplace, qui fait vivre une économie de 100 000 personnes. C'est vrai, et là-dessus, on n'a jamais dit le contraire. Maintenant, et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, Guillaume, en amont de votre intervention, le réchauffement climatique va faire que d'ici une vingtaine, trentaine d'années, il y aura forcément des questions qui se poseront sur la pérennité des stations de sport d'hiver. Évidemment, cette année, et peut-être pour les prochaines années, à court terme, dans les 2, 3, 4 prochaines années, il y aura un impact du coût de l'énergie qui devra bien évidemment. Malgré ce que vous dites sur des forfaits plafonnés, on constate quand même dans certaines stations, il y a une augmentation qui dépasse le taux moyen de l'inflation. On a cité des augmentations de 3 à 4 euros, c'est 9% d'inflation sur un forfait, donc on est au-dessus des 5% d'inflation. Bien évidemment que on va aller vers une augmentation du prix. Et donc se posera bien évidemment la question de l'accessibilité pour l'ensemble des Français qui se déplacent. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est un débat qu'on peut avoir aussi sur la question du bouclier tarifaire, qui n'est pas appliqué aux entreprises.
C'est-à-dire
on parle des stations de sport d'hiver qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Et on pourrait considérer que c'est à raison, puisque 8% des Français en seraient touchés à la rigueur, c'est bien normal qu'il n'y ait pas droit. Mais au-delà de ça, vous en avez parlé d'ailleurs sur ce plateau, le cas des universités qui n'ont pas droit au bouclier tarifaire et qui provoquent des fermetures. Et qui provoquent des fermetures. Des entreprises, des petites entreprises qui n'ont pas 120 000 emplois, qui ne bénéficient pas de ce bouclier tarifaire et qui subissent l'augmentation des prix. Donc c'est aussi la question sur la gestion
à court terme de l'augmentation de l'énergie.
Pour les si tu fermes les stations de ski d'hiver comme les facs, ça va être compliqué.
Oui, mais à la rigueur, j'ai envie de te dire que c'est pas la fin du monde.
On
de fermer...
la fermer en septembre.
Oui, mais c'est pas la fin du monde de fermer deux semaines une station de sport d'hiver pour 8% des Français que de fermer deux semaines une université pour des étudiants.
Après, c'est pas du tout le même.
C'est pas la même économie.
Bah, non, ça n'a rien à voir. Et...
symboliquement, je voudrais plus donner à des étudiants qu'à des gens qui pratiquent.
Oui,
des
mais et comme là, de toute façon, les riches vont continuer à y aller et ils s'en foutent que le forfait soit à 40 ou à 70
euros. Non, même pas, c'est 43, 47 euros. Donc, l'effet n'est pas énorme.
Oui, mais de toute façon, eux, ils vont continuer à payer. C'est que les étudiants, si tu leur demandes de doubler leur facture, ils vont pas payer. Ceux qui vont à Courchevel, ça ne leur posera aucun problème. Vous avez plein de messages, Alfred.
Oui, beaucoup de messages, notamment sur l'image. Christophe qui dit, j'adore le ski, mais ça va être compliqué de demander à 92% de la population de chauffer à 19 degrés pendant que les 8% restants continueront de s'amuser. N'est-ce pas la fin de l'abondance? Les stations vont pas se réinventer. Voilà.
Ça, c'est pas mal, ça. La fin de l'abondance liée à la fin des stations de ski, Laurent Andrieux.
Oui, enfin, en même temps, je vois pas très bien en quoi le fait que les gens continuent à aller skier fasse que ceux qui n'y vont pas se chaufferont plus. Enfin, ça me paraît un peu démagogique.
Mais tout le monde doit faire sa part.
Oui, oui, mais que effectivement, les stations de ski doivent se contraindre à une forme de sobriété aussi, bien sûr. Mais quand on dit attention, quand on parle de bouclier tarifaire pour les stations de ski, c'est pas une prime aux skieurs. C'est quand même un moyen pour tout ce système économique en place dans la personne, de ne pas crever. C'est quand même ça l'enjeu.
Alors, on vous a posé la question, est-ce que c'est la fin des sports d'hiver, Alfred Orange?
Là aussi, il y a débat. Vous répondez oui à 55%, non à 45%. Je finis juste par un message parce qu'on est dans le prolongement de ce qu'on va faire. C'est Hervé qui nous écrit, il nous dit, c'est typiquement le genre de débat qui me rend éco-anxieux, car pour beaucoup des intervenants, le réchauffement climatique est très très lointain, soit un faux problème. Nous n'avons plus les moyens écologiques de faire du ski.
Et justement, l'éco-anxiété, c'est le mal dont 67% des Français souffrent. Mais est-ce que c'est le mal du siècle ou est-ce que c'est un délire de bobo? Dites-nous tout, ce sera notre débat de 14h et puis dans un instant. Alors ça, c'est formidable, c'est mon coup de cœur là, de la semaine. Anthony Morel qui va nous parler d'un robot ménager pour les salles de bain. C'est un peu comme
moi,
les robots cuisine.
Moi, je veux, moi.
Eh ben,
moi.
Il arrive.
Moi, je veux, moi.
C'est-à-dire qu'au lieu de faire votre ratatouille, etc., vous ferez votre crème de beauté. C'est génial, ça vient de sortir. Et Anthony Morel nous en parle dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 12h50, vous êtes sur RMC, RMC Story, et c'est le moment de parler nouvelles technologies et beauté avec Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Oui, aujourd'hui, Anthony, on parle de deux de mes passions, les nouvelles technologies et la salle de bain. Et vous êtes venu avec un petit robot qui permet de fabriquer soi-même son dentifrice, son shampoing, ses crèmes de beauté. En fait, c'est une sorte de thermomix de la salle de bain. Quoi.
C'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est un produit qui coche toutes les cases.
C'est plus petit.
C'est un petit peu plus petit avec toutes les tensions sur le pouvoir d'achat, etc. Là, tout ce qui est do it yourself, comme on dit avec un très joli anglicisme, à le vent en poupe. Fabrique toi-même et effectivement ça fonctionne aussi pour les produits d'entretien, les produits de beauté. Le problème c'est qu'on trouve plein de recettes sur internet mais c'est toujours un peu compliqué. D'ailleurs on ne sait pas sur quoi on tombe, on ne sait pas forcément comment peser les ingrédients, est-ce qu'on va mettre la bonne quantité, on n'est pas tous des chimistes évidemment. D'où l'intérêt de la tech qui va simplifier un petit peu tout ça et ce petit appareil alors qui s'appelle le Beauty Mix. Donc c'est vraiment pareil que le Thermomix mais pour la salle de bain, c'est vraiment le même principe. C'est un petit chaudron connecté, hein, ça ressemble à un petit cylindre, moi j'appelle ça un chaudron, relié à une application sur mon smartphone qui va me proposer des centaines de recettes différentes. Donc ça va être des shampoings, des déos, des produits d'entretien pour la salle de bain. Là j'ai un shampoing par exemple, voilà. Donc on me dit tous les produits, les matières premières qu'il faut que j'achète.
Tu dis comment sont tes cheveux?
Alors oui,
moi, je prends pas n'importe quel shampoing.
Ouais voilà, ouais moi j'ai moins de problèmes que vous.
Oui, c'est vrai.
Hein, on est, je suis pas le seul sur le plateau, ça va. On peut discuter. Hein, on est solidaires. Donc là, il me faut par exemple de l'eau, de l'hydrolat de fleurs, du concentré de moussant, du conservateur doux, de l'huile d'amande douce, de l'acide lactique. Voilà, donc j'ai mes petits produits. Voilà.
Ça, vous alors tu bricolex.
Alors mais non, mais vous trouvez ça aussi. Ils vendent le tout évidemment. Donc c'est ça. Ensuite vous mettez tout dans le petit chaudron. Vous appuyez sur le bouton. Le truc se met à touiller, à faire sa petite tambouille, et vous retrouvez quelques minutes plus tard avec votre produit de tout prêt. Voilà.
Je trouve ça génial. Alors pour une crème, c'est ça. Vous prenez la crème, vous la mettez dans une petite boîte. Oui. Mais pour le dentifrice.
Et alors j'ai posé la même question. Parce que je me suis demandé la même chose, figurez-vous. Bah, en fait, ils vendent des petits tubes avec comme des sprays, si vous voulez, avec un diffuseur exactement comme un dentifrice. Et ça, c'est une forme de gel, en fait. C'est une forme de gel un peu liquide qui fonctionne exactement comme du dentifrice. Donc il n'y a pas de problème et on peut le mettre sur la brosse à dents sans aucun souci. Mais ça alors, a été pensé.
Évidemment, la question, c'est est-ce que c'est vraiment vraiment rentable de tout faire soi-même avec ce robot?
Alors, c'est comme toujours avec ce genre d'appareil, il faut réfléchir en termes de retour sur investissement. C'est-à-dire que d'abord, il faut acheter l'appareil. Alors, ça coûte autour de 120 euros. Voilà.
Ah, quand même.
Ensuite, il faut acheter les petits produits qui vont à l'intérieur. Donc là, c'est entre 3 et 6 euros selon le produit. Et ensuite, bah, vous calculez votre prix de revient. Alors, en général, ils vous le donnent. Ça revient beaucoup moins cher que si vous achetez dans le commerce. Typiquement, pour crème de beauté, ça va revenir à 3 ou 4 euros pour un pot, par exemple. Voilà. Alors que c'est beaucoup plus cher. Je suis pas un spécialiste, mais enfin, voilà. Pour les produits d'entretien, c'est la même chose.
Ah ben, donc, globalement, les pots vous allez... de crème de jour, ça commence à 15 euros et ça peut monter jusqu'à 200.
C'est ça. Alors après, la question, c'est est-ce que c'est aussi efficace? Est-ce que je vais pas me tromper dans le...
Est-ce que je vais pas avoir des boutons? C'est ça que...
Non, alors, c'est normalement, c'est bon. D'abord, c'est un sujet. C'est d'abord, vous êtes vraiment guidé par pas à pas, donc vous n'avez pas besoin d'être chimiste professionnel. Non, mais vous avez une petite balance, vous avez votre truc, etc.
Enfin, moi, quand j'achète une crème de beauté, excusez-moi, mais il y a marqué certifié par des dermatologues.
Alors
c'est
là,
important.
Les produits ont été testés en laboratoire. C'est une polytechnicienne qui a mis ça au point, donc il y a une validation scientifique quand même un peu. Et tout ça est construit du côté de Chartres, voilà, dans la.
Ouais, mais ça me donne confiance.
vous rigolez, à Chartres, vous avez la Cosmetic Valley. Ah, c'est là où il y a toutes les entreprises spécialisées dans la beauté, la cosmétique, etc. Donc, non, ils ont une vraie expertise, un vrai savoir-faire.
Votre porcelaine est faite à Limoges, quoi.
Exactement, c'est ça.
Estelle, si t'en veux pas, je vais le prendre, moi.
Il me le fera même pas, de toute façon.
Attendez, mais il repart après. C'est moi, je le garde pas non plus.
Hein. Ah, mais c'est dommage.
C'est dommage.
Il y a quand même plein d'autres innovations dans le même esprit. Et par exemple, une bouteille de parfum, ça c'est génial, qui contient 100 parfums différents.
Ouais, alors c'est un petit peu la même thématique de la personnalisation et du do-it-yourself. Alors ça s'appelle Ninu. Et en fait, le principe, c'est un flacon connecté, là encore, à une application. Vous allez choisir le type de fragrance qui vous plaît en fonction de votre humeur du moment, voilà, de ce que vous avez envie de faire. Après, c'est vous qui voyez, hein, évidemment.
D'accord.
Et en fait, à l'intérieur de cette bouteille, vous avez plusieurs flacons avec plusieurs fragrances qui va vous faire un mélange personnalisé en fonction de vos envies. Et vous, quand vous appuyez sur le petit pchit, eh bien, vous avez une odeur différente qui sort à chaque fois. Voilà, en fonction de ce que vous avez paramétré sur l'application.
Et tu dis, j'ai envie de fraises.
Ouais, c'est ça, pommes. C'est voilà. Vous mettez vos envies, votre humeur particulière du jour et vous avez des odeurs. Vous pouvez tester des odeurs plus ou moins fruitées, plus ou moins musquées. Voilà, comme des parfums quand vous allez dans un magasin, dans une parfumerie, tout simplement.
Mais tu le sens où, ce parfum?
Ah, bah, après, il faut appuyer sur le pit-pit et puis non,
mais c'est un flacon, c'est ça?
C'est un flacon, c'est un flacon connecté avec différents, avec plusieurs petits flacons à l'intérieur qui vont vous faire des mélanges personnalisés en temps réel, en fait. Assez malin. C'est en cours de financement, ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez le précommander pour l'instant. Ça s'appelle le Ninu, N-I-N-U.
Et en revanche, on va revenir sur ce robot qui plaît beaucoup à Emmanuel Dancourt.
Oui, c'est le Beauty Mix. Donc, ça, c'est français, hein, vraiment. Et ils connaissent un très, très gros succès, là, depuis quelques mois. Et c'est vrai que là, quand je disais qu'ils cochent toutes les cases, c'est à la fois le côté faire des économies et puis il y a le côté empreinte environnementale.
Il y a pour les hommes aussi les crèmes de jour.
Alors moi j'ai pas testé les crèmes de jour, j'étais plutôt sur les produits d'entretien. Moi,
vous avez une très belle peau, Anthony, il n'y a pas besoin. Merci beaucoup Anthony Morel d'avoir été avec nous. Anthony Morel tous les jours, midi 50 dans Estelle Midi. Dans un instant on parle de l'éducation nationale qui demande au recteur d'académie de faire respecter la loi face à l'augmentation des tenues religieuses à l'école. Doit-on vraiment s'inquiéter de cette recrudescence? On en parle juste après cette courte pause, à tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.